Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Clara Garnier-Amouroux, Julie Delabrosse, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Louis Drillon. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morzinkan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho, décryptée par des acteurs et des chercheurs en sciences sociales, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse aux batailles autour des privatisations. C'est une décision hautement symbolique pour le Royaume-Uni, pays pionnier de la libéralisation du rail. En juin dernier, une ligne de train de l'Est de l'Angleterre a été renationalisée. Quelques semaines plus tard, c'est une prison britannique qui est repassée sous le contrôle de l'État, relançant le débat autour des privatisations et de leurs conséquences sur la qualité du service public. Au même moment, le gouvernement français, lui, donnait le coup d'envoi à une nouvelle vague de privatisation qui devait lui rapporter 10 milliards d'euros. En ligne de mire, Aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie. Alors, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises privatisations ? On en parle avec Christophe Rameau, économiste, maître de conférence à l'Université Paris 1 et membre des économistes atterrés, et Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de Recherches Économiques et Fiscales, l'IREF. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Emmanuel Combes nous dira tout de la théorie de l'évolution économique de Schumpeter. Christophe Rameau et Nicolas Lecossin, bonjour.
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 Alors, on va commencer par le Royaume-Uni que j'évoquais en introduction et qui est peut-être le pays qui allait le plus loin dans le recours au secteur privé. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui à un retournement de tendance dans le pays ? Et si oui, comment l'expliquer, Christophe Rameau ?
Ben oui, on assiste à un retournement de tendance. Il faut savoir que le Royaume-Uni était l'un des pays qui avait été le plus loin, à la fois dans les privatisations et puis dans ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, hein, qui sont un peu liés. Et il y a une série de rapports officiels qui ont été publiés, qui montrent que tout cela conduit à, le plus souvent, à des gabegies financières absolument effroyables, pour une raison toute simple. Il faut savoir que quand on confie des missions de service public au privé, ben c'est spontanément plus coûteux. Pourquoi ? Bah parce que d'abord il y a des dividendes à verser et le capital aujourd'hui est très vorace. Il exige des retours sur investissement extrêmement importants. Il faut savoir que les grandes firmes, ça ne concerne pas les petites entreprises bien entendu, mais les grandes firmes aujourd'hui dans le monde sont obligées non seulement de verser des dividendes astronomiques, mais elles recourent massivement au rachat d'actions. 1000 milliards de dollars aux États-Unis l'an dernier. Et la France n'est malheureusement pas en reste sur ce volet. Donc rachat d'actions, ça signifie que en fait, les entreprises rachètent leurs propres actions pour faire monter le cours, pour satisfaire les actionnaires. Donc on détruit du capital. Donc c'est plus coûteux parce qu'il y a des dividendes à verser. Parce que les hauts cadres, souvent, sont beaucoup mieux payés dans ces entreprises privées que dans le public. Et puis par ailleurs, il y a des frais de gestion de la concurrence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est obligé, par exemple, dans les partenariats publics-privés, de recourir à des cabinets de conseil extrêmement coûteux pour établir des clauses de concession, des cahiers des charges de concession. Tout ça génère une bureaucratie, pour le coup, exorbitante. Alors privé, ça bénéficie au capital privé, mais c'est pas bon pour le contribuable.
Nicolas Lecossin, sur ce retournement de tendance, est-ce que ce serait un exemple qui montrerait à quel point c'est parfois compliqué quand c'est des entreprises privées qui reprennent la gestion de certains domaines?
Moi, je n'ai pas vu un retournement de tendance. Ce n'est pas parce qu'il y a une ligne qui a été nationalisée, qui probablement était complètement déficitaire, il n'y avait pas de voyageurs. C'était comme ça, on devrait fermer des centaines de lignes ferroviaires en France. Moi, je vois au contraire plus d'ouverture à la concurrence. D'ailleurs, le dernier exemple en date, c'est l'Italie qui a ouvert à la concurrence ses chemins de fer, y compris les chemins de fer à grande vitesse, le train à grande vitesse. Et on voit d'ailleurs dans d'autres pays, on pourra en reparler tout à l'heure, ouverture à la concurrence, privatisation. Attention, il y a beaucoup de différences entre les pays. Vous avez dans certains pays privatisation, dans d'autres ouverture à la concurrence avec seulement quelques entreprises ou une seule entreprise. Donc il y a pas mal de différences. Donc je vois tout ça dans plusieurs pays européens et le retard de la France pris par la France avec une société nationalisée qui est toujours d'État, qui accumule les dettes et l'argent, et dépense l'argent public.
Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être mobiliser un exemple, la privatisation du rail au Royaume-Uni. Il faut rappeler que le Royaume-Uni, qui a été l'un des pionniers de la privatisation du train, lancé dès 1994.
Le prix des trains a augmenté de plus de 23% depuis la privatisation. La privatisation a donc clairement brisé le réseau ferroviaire britannique. Les rails, l'infrastructure et le terrain appartiennent à l'entreprise publique Network Rail et les compagnies qui exploitent les trains sont contractées pour diriger les franchises. Si on ramenait les trains dans le public, on économiserait 1,5 milliard d'euros par an, ce qui pourrait financer une réduction de 18% du prix des billets. On ferait ça en arrêtant de donner de l'argent aux actionnaires et on économiserait le gâchis et les coûts provoqués par la fragmentation du réseau.
Je viens de Cambridge et ça coûte environ 6 000 euros par an pour un abonnement à destination de Londres pour 60 km. Ce qu'on voit, et notamment sur la ligne East Coast, c'est qu'après quelques années, les opérateurs ne font pas l'argent qu'ils espéraient et que de manière extravagante, ils peuvent dénoncer leur contrat en faisant une croix sur les milliards qu'ils avaient promis au gouvernement. Et c'est le contribuable qui paie l'addition.
J'ai dirigé le service des trains sur cette ligne quand c'était encore dans le secteur public et on l'a fait avec succès, mais je ne défendrai pas ça dans le futur. L'État n'est pas particulièrement doué. L'État a tendance à être impliqué dans le court terme. Les considérations politiques viennent toujours s'interposer.
Voilà, extrait d'un documentaire diffusé sur Arte en avril dernier. On entendait d'abord Hélène Lys, responsable de la campagne We Own It, nous en sommes propriétaires. Daniel Zeichner, député travailliste, et enfin Michael Holden, l'ancien directeur de deux exploitants ferroviaires britanniques. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette privatisation du rail Royaume-Uni?
De toute façon, le bilan a été rapidement négatif. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, on avait privatisé à la fois l'exploitation, c'est-à-dire les trains qui circulent, et puis les infrastructures. Bon, et en fait, on s'est rapidement aperçu que c'était totalement aberrant, parce que le rail est un secteur qui, structurellement, n'est pas rentable. N'est pas rentable, voire déficitaire. Pourquoi ? Parce qu'il est en concurrence déloyale, déjà avec le transport routier, c'est son principal concurrent. Or, le transport routier, au Royaume-Uni comme en France, globalement, ne paye pas les infrastructures. D'accord ? Un camion paye un péage quand il passe sur l'autoroute, mais enfin, la plupart des camions empruntent des voies secondaires qui ne sont pas soumises à péage, et donc ils ne payent pas l'infrastructure. Donc, sur le chemin de fer, et comme sur pas mal d'autres, c'est valable pour l'électricité et bien d'autres domaines d'industrie de réseau lourds, il y a des investissements publics extrêmement lourds à réaliser qui sont bénéfiques pour la population. Et vous avez bien compris que on ne peut pas mettre en concurrence des situations où il y a des monopoles naturels. Vous n'allez pas construire 10 lignes LGV en parallèle pour les mettre en concurrence. Ça n'a pas de sens. Donc il y a forcément un monopole, et ce monopole, parce qu'il y a des coûts fixes d'investissement extrêmement élevé, ça ne peut pas être rentable. En France, pourquoi on a créé la SNCF en 1937 ? C'est à la demande des compagnies privées qui étaient en déficit et qui donc ne voulaient plus supporter leurs dettes, d'accord ? Parce qu'il y avait des dettes privées à l'époque, et donc c'est pour cette raison-là qu'on a créé la SNCF. Donc l'exemple du Royaume-Uni nous montre que c'est vraiment à la fois par dogmatisme libéral. Le dogmatisme a changé de camp ces dernières décennies, vous l'avez sans doute remarqué. Et donc c'est à la fois par dogmatisme et pour, soyons clairs, pour servir certains intérêts privés, cupides, qu'on recourt à des privatisations et pas au nom de l'intérêt général.
Alors on va entendre Nicolas Le Cossin là-dessus, on a entendu Christophe Rameau, qui nous dit ce n'est pas rentable. Il faut noter que la hausse des prix a été assez dramatique, c'est le Financial Times qui le dit, des billets en moyenne 30% plus chers qu'en France, au Royaume-Uni.
Si vous rajoutez les impôts qui sont donnés grâce à l'argent public à la SNCF, vous arrivez à des prix très élevés en France. Et les prix sont à la hausse en France aussi. Ticket de billet de train ou le ticket de métro, c'est de l'ordre de 30-40% depuis des années, que ça augmente tous les ans. On a fait sur notre site IREF des comparaisons des tickets de prix, mais il faut pas oublier que vous avez les subventions publiques à la SNCF. Mais moi, je suis étonné par ces réactions concernant les chemins de fer britanniques, parce qu'en préparant cette émission, j'ai regardé les statistiques et les rapports européens, et j'ai trouvé, par exemple, European Railway Performance Index, qui compare les les résultats, enfin les caractéristiques des chemins de fer en Europe, des pays dans les chemins de fer, et le chemin de fer britannique est parmi les meilleurs en Europe. On a la Suisse, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne comme les meilleurs en Europe. La France est bien derrière. Donc je ne vois pas exactement ce qu'on peut vraiment reprocher au chemin de fer britannique. Il y a plein de défauts, on pourra revenir. La privatisation, vous avez bien fait de rappeler, a commencé en 94. On a mis un peu tout dans le sac de la privatisation, infrastructure, tout. On a mal fait au début, c'est vrai, tout à fait. Puis après, on a corrigé les défauts. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports européens et Eurostat qui le dit, les chemins de fer britanniques sont parmi les meilleurs, les plus sûrs.
Ce qu'on peut dire quand même, Nicolas Le Cossin, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique en Grande-Bretagne, elle est très clairement en faveur des renationalisations. Plus de trois quarts des Britanniques y seraient favorables. Alors, les travaillistes appellent aujourd'hui à une renationalisation des grandes compagnies d'eau, d'électricité, de gaz, de train.
Mais alors,
si ça marche si bien, pourquoi cette opinion publique en faveur des renationalisations?
Sondages, si vous faites des sondages en France, vous aurez des résultats très 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 mauvais concernant, d'ailleurs ce matin dans les échos, vous avez là, une comparaison des systèmes de santé européens et tout le monde, on nous dit que nous avons le meilleur système de santé au monde et en fait on est très très mal classé dans les systèmes de santé européens. C'est une comparaison européenne qui est sortie dans les échos ce matin. Donc vous voyez, vous faites des sondages, vous avez quand même des résultats complètement différents. Je dis pas que c'est parfait, en Grande-Bretagne, je dis pas ça, mais vous avez d'autres systèmes où vous avez ouverture à la concurrence, comme en Suède, comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas, et ça marche.
Alors la SNCF, on le sait, s'ouvre à la concurrence, mais il y a également une autre entreprise qui pourrait s'ouvrir à la concurrence, c'est la RATP. C'est ce que nous apprend le journal Les Échos. La mise en concurrence des bus franciliens devrait être engagée fin 2024. Je voudrais avoir votre regard sur cette proposition qui est faite actuellement, Christophe Ramon.
D'accord, si vous me permettez de rebondir par rapport à mon interlocuteur, les données, la piocher ici et là, c'est pas très sérieux, notamment sur la question de la santé. Alors, il faut savoir que le pays au monde qui a été le plus loin en matière de privatisation du système... C'est le pays qui a été le plus loin au monde en matière de privatisation du système de santé, c'est les États-Unis. Il y a un système de santé public aux États-Unis, heureusement pour les Américains, la moitié de la santé aux États-Unis et public. C'est Medicare et Medicaid. Medicare pour les plus de 65 ans, Medicaid pour les pauvres. Enfin, la majorité des Américains n'en bénéficient pas, et donc ils sont contraints de recourir à des systèmes privés de santé. Résultat des courses, et là les études sont vraiment très lourdes, le système de santé, les Américains consacrent à peu près 18% de leur PIB, 50% de plus que la France pour leur santé, on est à 12%. L'espérance de vie aux États-Unis est inférieure de 3 ans à celle de la France. Et d'ailleurs, il y a une étude qui vient de paraître sur le Royaume-Uni, pour revenir, pour faire le pont avec le Royaume-Uni et la question de la santé. L'espérance de vie au Royaume-Uni stagne pour la première fois, là, ces toutes dernières années, et les études montrent que c'est largement lié à l'austérité budgétaire, notamment sur le système de santé. Voilà pour les performances. Alors, pour revenir sur la question de la RATP, il faut savoir d'abord que ça a déjà lieu en partie. Il faut savoir que, par exemple, dans le cadre des projets d'investissement, dans le transport, dans ce transport francilien, il y a quelque chose d'important. Il faut faire des choix, bien entendu, le Grand Paris, etc. Et il y a un choix qui a été fait par le gouvernement, qui est tout à fait contestable, qui est de financer sur fonds publics, une ligne pour les riches, le Charles de Gaulle Express. Alors qu'on a une ligne, qui est la ligne B du RER, qui mériterait des investissements supplémentaires, et bien là, on va consacrer 1 milliard, si je ne m'abuse, 1,5 milliard d'euros pour financer une ligne qui sera une ligne vraiment pour les riches. D'accord ? Donc ça sera un coût très élevé, et dans le cadre d'une concession potentiellement au privé. Donc on voit bien là qu'on a quelque chose de tout à fait aberrant. Par ailleurs, sur la question de la RATP, l'enjeu pour les transports franciliens, c'est bien entendu d'abord et avant tout des investissements massifs. C'est ça l'enjeu. Et le privé ne peut pas en prendre en charge ces investissements. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, l'État peut bien entendu avoir ses défauts. Il ne s'agit pas de nier cela, loin s'en faut. Mais enfin, l'intérêt de l'État, c'est qu'il a une vision de long terme. Il faut savoir qu'il est inscrit dans notre Constitution. C'est dans le préambule de la Constitution de 1946. Je cite « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » C'est pas C'est pas par idée que tout doit être nationalisé, je vous rassure. Je suis pour une économie mixte. Hein, donc je pense que le privé, bien entendu, il est mieux à même de prendre en charge une série d'activités, mais pour toute une série de secteurs qui mettent en jeu l'équilibre du territoire, qui mettent en jeu des investissements extrêmement lourds, où il y a des monopoles de fait, eh bien là, il est nécessaire d'avoir un contrôle public, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on confie des rentes au privé, et on sait que finalement, ça revient très cher. Vous avez cité l'eau tout à l'heure. Eh bien, l'eau, on a une illustration parfaite. Aux États-Unis, sachez-le, monsieur, l'eau est publique. L'eau est publique à quasiment 100%. Aux États-Unis, vous vous rendez compte? Ça fait des années que les multinationales,
ça fait des années
que les multinationales françaises de l'eau essayent de privatiser l'eau aux États-Unis, ils n'y parviennent pas. Par contre, au Royaume-Uni, c'est privatisé, la qualité de l'eau prix de l'eau, eh bien, ne sont pas au rendez-vous.
On va entendre Nicolas Le Cossin sur d'abord cette question de la RATP et plus largement peut-être sur l'eau aussi.
Oui, juste une précision, la santé, vous avez raison, la santé est catastrophique au Royaume-Uni parce qu'il est étatisé.
Aux États-Unis.
Il est étatisé à 100%. Aux États-Unis, c'est complètement différent.
Elle est bonne la santé aux États-Unis?
Ah oui, bien sûr.
Trois ans d'espérance de vie, vous avez des classements
internationaux des soins aux États-Unis. C'est la lutte contre le cancer. Les États-Unis sont largement en tête dans les classements.
C'est pas sérieux.
Il n'est pas étatisé. Il est en partie privatisé.
La question, c'est peut-être qu'elle est bonne parce que quand on peut la payer aux États-Unis, en l'occurrence.
Ah, mais vous avez des assurances. Oui, bien sûr. Vous avez des assurances.
Il faut pouvoir se permettre de payer ces mutuelles privées.
Aux États-Unis, j'ai pas vu les gens mourir devant les hôpitaux. Je suis désolé. Je vois des catastrophes en France aussi où on paye beaucoup. La sécurité sociale, c'est notre fiche de paye, on le sait très bien.
Vous savez qu'il y a un consensus aux États-Unis pour dire que ça ne fonctionne pas.
Au Royaume-Uni, c'est catastrophique parce que c'est 100% d'État. NHS, c'est 100% d'État. Et vous avez des systèmes de santé qui sont ouverts à la concurrence. Suisse, Allemagne et Pays-Bas, où ça marche très 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 bien, beaucoup mieux qu'en France.
Vous mobilisiez tout à l'heure l'exemple de l'eau. Justement, parlons du secteur de l'eau potable qui a été privatisé en 1989 au Royaume-Uni, qui a vraiment entraîné un certain nombre de scandales ces derniers mois. Selon le ministre britannique de l'Environnement, Michael Gove, les 18 entreprises qui ont obtenu des monopoles régionaux sur l'eau ont reversé 95% de leurs profits à leurs actionnaires au cours des 10 dernières années, au détriment évidemment de l'investissement, des usagers. Donc on voit que ça, c'est un exemple qui va quand même plutôt dans le sens des adversaires des privatisations.
Mais attendez, j'ai dit au début qu'il y avait des bonnes et mauvaises privatisations et que je suis contre le monopole, je suis pour la concurrence. Alors je pense qu'on est tous d'accord. Si vous privatisez, vous avez une entreprise qui a le monopole, bah alors elle peut faire n'importe quoi. Il y a quand même beaucoup de rapports et d'enquêtes qui ont été publiés en France sur les magouilles dans le secteur de l'eau et les relations, les connivences entre les politiques et les distributeurs.
Privés.
Il y en a eu plein. Oui, bien sûr, je suis d'accord, bien sûr. Et d'État aussi.
Non.
Mais vous avez plein d'affaires. Je ne vais pas rappeler les catastrophes des nationalisations au début des années 80 en France, non? Tout ce qu'on a payé, Crédit Lyonnais, les affaires du Crédit Lyonnais, les milliards que nous continuons à payer d'ailleurs. Donc vous avez bien sûr des mauvais exemples, je suis tout à fait d'accord. Il faut une privatisation, une ouverture à la concurrence saine.
Alors venons-en à cette nouvelle vague de privatisation qui est contenue dans la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises, loi qui est examinée à l'Assemblée depuis le début du mois. On l'a dit, c'est Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux qui seraient concernés. Commençons par Aéroports de Paris.
ADP s'est beaucoup développée au cours des dernières années. Elle peut le faire encore plus dans d'autres conditions. Et ces conditions-là, c'est celles d'une société qui aura la gestion d'ADP en concession pour 70 ans, avec un certain nombre de garanties de régulation fortes que j'ai voulu apporter aussi aux salariés comme à la direction. Les salariés ont un statut, le statut des salariés d'ADP. Ce statut ne sera pas remis en cause. Et je rappelle que nous sommes en train de définir un cahier des charges pour le futur concessionnaire, qui est un cahier des charges avec des obligations importantes qui devront être respectées par le futur concessionnaire. Il y aura, dans le cahier des charges, un contrôle des tarifs aéroportuaires. Nous, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous faisons ce choix d'un État stratège qui place l'argent des Français dans l'investissement et dans l'innovation.
Bruno Le Maire, le 13 juin dernier, Nicolas Le Cossin, cette plus grande privatisation d'Aéroports de Paris, ça va dans le bon sens selon vous? On se demande pourquoi privatiser une entreprise qui rapporte des dividendes importants à l'État, et aussi pourquoi dans un secteur aussi stratégique qui est celui du transport international?
Attention, s'il s'agit de concessions, c'est pas pareil, hein, parce que les autoroutes aussi, hein, c'est pas vraiment une vraie privatisation, hein. Ce sont des concessions données par l'État, accordées par l'État pour une durée dans le temps.
Alors la durée en l'occurrence c'est 75 ans.
Oui, il faut voir ce qui va se passer exactement, parce qu'avec le gouvernement actuel, ça change souvent. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Donc, j'attends voir vraiment les lois. Mais regardez les transports aériens. Est-ce que quelqu'un se plaint de l'ouverture à la concurrence et privatisation dans le transport aérien? C'est le plus sûr au monde. Vous avez plein d'entreprises privées qui sont en concurrence. Ça coûte de moins en moins cher. C'est beaucoup moins cher d'ailleurs que les billets de train à la SNCF pour circuler en Europe et en France aussi. Donc c'est quand même une belle réussite d'ouverture à la concurrence. Concernant les aéroports de Paris, il faut voir s'il s'agit vraiment d'une ouverture à la concurrence, d'une vraie privatisation.
Pour vous, Christophe Rameau, décidément, pour vous, on est en train d'offrir des situations de rente à des monopoles privés avec cette privatisation croissante.
Oui, bien sûr, contradictoire à évoquer la concession aux autoroutes. Là, on a eu un rapport de la Cour des comptes qui nous montre la catastrophe financière pour l'État.
Donc, on a privatisé... été réalisé en 2006.
Voilà, tout à fait, réalisé en 2006. On a récupéré 15 milliards, en fait, en quelques années, c'est-à-dire en un peu plus de 10 ans. Ces entreprises ont versé sous forme de dividendes l'équivalent de ces 15 milliards. En fait, elles ont récupéré donc le montant de cette concession. Donc, c'est une perte pour l'État. On fait des recettes à court terme. C'est une politique vraiment à très courte vue. On fait des recettes à court terme pour baisser les déficits publics. Résultat des courses, on se prive de recettes à long terme. Pourquoi ? Il faut savoir que l'eau, les aéroports, les autoroutes, tout ça, ce sont des situations de monopole. On ne va pas construire 10 aéroports autour de Roissy pour mettre les aéroports en concurrence. Personne ne propose cela. Même chose pour les réseaux d'eau, même chose pour les autoroutes. Et donc, pour Aéroports de Paris, s'oppose en outre de redoutables problèmes. On a une compagnie nationale, on a un pavillon national, Air France, qui est en difficulté pour des raisons structurelles, qui est que Air France, c'est la moitié, c'est pour ça que j'en parle, c'est la moitié du chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris, Air France KLM. On a une compagnie nationale qui est en fait un pavillon national qui est en concurrence déloyale par deux volets. D'abord, des compagnies low cost qui font du dumping social, fiscal et environnemental, très bien. Et puis d'autre part, des compagnies du Golfe, qui sont massivement soutenues par leur État, pour le coup là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas gloire au privé, donc il y a des fonds publics massivement investis qui leur permettent de présenter des billets attractifs. Bon, et donc, si vous voulez, le risque, bien entendu, avec la privatisation, l'un des risques, c'est bien entendu de déstabiliser un peu plus notre compagnie nationale. Alors, tout ça pour quoi faire quoi ? Tout ça pour abonder. L'objectif avec les 10 milliards de privatisation au total qui sont recherchés, c'est pour abonder un fonds pour l'innovation l'idée, c'est qu'on va faire on va placer 10 milliards de fonds qui rapporteront, on espère, 200 à 300 millions. Donc on est dans une logique de financiarisation pour financer les start-up, etc. Mais il faut savoir que avec ces 10 milliards de privatisation, sans privatiser, avec les dividendes reçu par une bonne part, par les participations publiques, on peut tout à fait abonder ce fonds. Donc en fait, ce qu'il y a derrière, c'est confier, c'est transformer Aéroports de Paris, puis ne nous cachons pas, en Aéroports de Vinci, puisque c'est Vinci qui est derrière, qui est déjà
participation
d'Aéroports de Paris. Donc en fait, là, on vise vraiment à satisfaire les actionnaires privés. Alors, Et pour le coup, on ne fait pas ce qui devrait être fait. Par exemple, le scandale des aéroports, alors ça c'est des normes européennes, mais que l'État français qui est puissant pourrait remettre en cause. Le scandale des aéroports, c'est le système de double caisse, que ce faisant, on ne remet pas en cause. Pour l'instant, les aéroports n'ont pas le droit de confondre ce qui relève de la gestion aéroportuaire et puis ce qui relève de leur activité commerciale, les parkings, les boutiques, etc. Et donc, il y a des activités extrêmement juteuses sur les activités commerciales. Or, si les gens vont faire du commerce dans les aéroports, c'est bien parce qu'ils prennent l'avion. Donc, ce système de séparation fait que les redevances sont plus élevées et peuvent avoir tendance à brimer notre compagnie nationale.
Nicolas Legoussin, est-ce qu'il y a un risque en situation de monopole, les opérateurs privés augmentent leurs prix pour augmenter les rentes, donc ça va contre l'intérêt général et celui des usagers?
Alors, comme je l'ai dit, je suis pour une vraie concurrence, c'est-à-dire ouvrir le marché à plusieurs entreprises privées et instaurer une véritable concurrence, sinon on peut se retrouver éventuellement dans une situation de monopole. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec Aéroports de Paris, avec Air France, avec les autres entreprises publiques, c'est qu'on prend du retard. on prend du retard par rapport à d'autres pays. Les entreprises publiques françaises, SNCF et RATP, sont la chasse gardée des syndicats, où ils ont des privilèges, ils ont de l'argent. On paye 13 milliards d'euros par an pour la SNCF en subvention publique. On prend la dette de 50 milliards d'euros et une partie de ces dettes, on rajoute à la dette de la France. Donc, vous voyez, ce sont des dizaines de milliards qui sont perdus, qui sont jetés par les fenêtres. Un exemple concret, c'est l'ouverture à la concurrence du fret. Il y a quelques années, le fret a été... Je rappelle qu'il y a des directives européennes pour ouvrir la concurrence, le transport. Donc, il faut quand même respecter les directives européennes. Donc, le fret devait être ouvert à la concurrence à partir de 2003. La France a pris du retard à cause de l'opposition des syndicats. L'Allemagne a ouvert la concurrence le fret à la concurrence. Maintenant, regardez les parts de marché en Europe du fret, de la Deutsche Bahn et puis de la SNCF aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter aussi, puisqu'on parle du transport ferroviaire, c'est que la SNCF et la RATP profitent très bien de l'ouverture à la concurrence dans les autres pays. La SNCF est présente dans une centaine de pays dans le monde.
Christophe Rameau, peut-être sur le fret en Allemagne ?
Mais sur le fret en France, l'ouverture à la concurrence du fret s'est traduite par une chute considérable des lignes de fret. Pourquoi ? Ben, quand vous êtes un opérateur privé, vous avez bien compris que vous allez faire des activités là où c'est rentable. Or, le fret, à nouveau, ben, c'est peu rentable. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fermé des dizaines de lignes de fret. Et donc, la part du fret, à l'heure de la transition écologique, la part du fret, on est l'un des pays où la part du fret est la plus faible. Parce que, et ça a considérablement chuté, ça a chuté de moitié à cause de l'ouverture à la concurrence. On a maintenu des autoroutes de fret, si vous voulez, mais toutes les lignes secondaires, toutes les lignes nationales, on les a fermées. Mais enfin, vous aurez remarqué malgré tout, pour converger d'une certaine façon, que mon contradicteur est très embêté sur l'aéroport de Paris, puisqu'il dit oui, parce que c'est un vrai ultra-libéral, donc il est pour la concurrence, et il est obligé de reconnaître que, bien entendu, Charles de Gaulle, de même Corly, bah c'est des monopoles, d'accord. On va pas construire 10 aéroports à Roissy, c'est pas possible.
Vous pouvez sous-traiter très bien, et ouvrir la concurrence. Mais non, je ne suis pas du tout embêté.
Il ne peut pas y avoir, par définition, 10 opérateurs pour gérer un aéroport, c'est pas possible.
Alors, on disait la même chose du transport aérien.
Non, le transport aérien,
il y a des dizaines de compagnies aériennes.
Non, le transport aérien, c'est différent parce que vous pouvez avoir des.
On disait la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Bien sûr, on disait la même chose.
Donc, je reviens sur la question de l'enjeu écologique que vous avez mentionné, qui est bien entendu très important. On sait que pour la transition écologique, il y a pas que ça qu'il faut faire. Enfin, il faut notamment passer à des transports plus sobres, et donc ça suppose des transports collectifs. Et là, à nouveau, ça suppose une volonté publique extrêmement forte. Par exemple, l'argent qu'on a perdu en privatisant les autoroutes, on aurait pu le basculer pour favoriser notamment le transport ferroviaire. Et le transport ferroviaire, le transport ferroviaire, il est déficitaire, mais dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, le réseau est déficitaire. Et c'est pas du tout gênant. C'est un investissement public sur le long terme, donc c'est pas du tout gênant.
On va laisser répondre Nicolas Lecossin, et notamment sur cette mise en concurrence d'aéroports de Paris, de Charles de Gaulle,
l'occurrence. On disait la même chose du transport aérien à la fin des années 80, début des années 90, on disait attention, on ouvre à la concurrence le transport aérien, il y aura plein de catastrophes aériennes, on ne peut pas réglementer, c'est la sécurité qui est en jeu. On voit aujourd'hui que c'est le moyen de transport le plus sûr de loin même. 2017 a été d'abord un record extraordinaire en peu de nombre d'accidents dans le monde. Aux États-Unis, zéro accident d'ailleurs.
Comment mettons en concurrence l'aéroport Charles de Gaulle par exemple?
Vous demandez à des organismes privés d'investir dans l'aéroport de Paris et puis se proposer répondre aux appels du marché. C'est ce qui se passe dans les autres entreprises, les autres secteurs. Ce qui ne se passe pas en France avec la SNCF ou la RATP, qui investit dans d'autres pays. Je rappelle que, par exemple, le réseau ferroviaire de la banlieue de Stockholm, la SNCF y est appliquée.
Christophe Rameau, d'un mot.
Sur la question de l'aéroport de Paris, j'ai sous les yeux une tribune de Jean-Marc Janillac, l'ancien président d'Air France, qui était passé à peu près inaperçu dans le monde de décembre 2017, qui se prononçait, alors un mot très diplomatique, mais contre la privatisation d'aéroports de Paris et qui évoquait notamment la constitution de rentes au bénéfice de monopoles privés. On n'a pas là affaire à un gauchiste keynésien, je ne sais quoi, etc. Une dernière remarque sur les aéroports. Aux États-Unis, Et en Allemagne, pour ne citer que ces exemples, les aéroports sont sous contrôle public.
Non, il y a des associations privées qui gèrent les aéroports aux États-Unis.
Entrepreneurs, entreprenants, travaux publics spécialisés, marais salants, milieux humides, eaux stagnantes. Casque obligatoire, chantier dangereux, grotte souterraine en mauvais état, risque d'éboulement, le roi du soutènement interdit au public. Catimini, palissade de police et grue bien montée, travail au noir, je déclare. Minimum syndical, assuré, rassurant, secteur en développement, privé de risques, beaucoup de foudre, aux chutes inopinées. Ce mécanique, bras articulés, jamais servi, encore sous garantie, dernier cri. On creuse, on pioche, on pèle, on bêche, on fend, on trouve, on vrille, on enfouit, on comble, on déblaye, satisfait ou remboursé.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était l'entrepreneur de Gaspard Lanuit. On parle des batailles idéologiques, des batailles de chiffres autour des privatisations avec Christophe Rameau, Nicolas Lecossin. Et j'aimerais qu'on évoque la Française des Jeux. La privatisation s'annonçait simple selon le gouvernement, mais les choses se compliquent aujourd'hui autour de la question de la régulation, du monopole. Les opposants à cette privatisation estiment que l'État va perdre une partie de ses moyens d'action en matière de lutte contre l'addiction aux jeux, le blanchiment d'argent sale, ainsi que la protection des mineurs. Qu'en pensez-vous, Nicolas Lecossin ?
Alors, je trouve que cette action qui paraissait tout à fait noble de financer le patrimoine, la restauration du patrimoine grâce à un jeu, a été complètement déplacée parce qu'effectivement, on peut l'assimiler à une incitation à l'addiction des jeux. Et d'ailleurs, on a découvert que seulement une infime partie du coût du ticket à gratter à 15 euros, seulement 1,50 euros allait pour la restauration du patrimoine, donc c'était ridicule. Donc on peut très bien privatiser la Française des Jeux, ça a été le cas dans d'autres pays. D'ailleurs, on peut donner l'exemple britannique où ça s'est très très bien passé, la National Lottery, qui a été privatisée par Madame Thatcher et qui d'ailleurs finance grâce à une fondation privée, le patrimoine britannique. Donc on peut le faire, mais je le répète, en privatisant comme il faut le système.
Christophe Rameau, sur la privatisation de la Française des Jeux.
On estime que 1% d'augmentation du chiffre d'affaires de la Française des Jeux, c'est 1000 joueurs pathologiques en plus et 6500 joueurs à risque en plus. Quand je dis tout cela, ça veut dire que c'est des coûts pour la société. Parce que des joueurs pathologiques, ou des joueurs à risque, c'est du chômage en hausse, des divorces, des problèmes de santé, hein, c'est-à-dire c'est le problème d'addiction. Donc c'est un coût social considérable pour la pour la collectivité, on l'estime à environ 900 millions hein, le coût entre bon bref.
Et qu'est-ce que la privatisation alors changerait
à la privatisation, vous avez bien compris que si vous confiez ce secteur-là à un opérateur privé, il va essayer de faire plus de bénéfices. C'est de bonne guerre de son point de vue, et donc il va essayer, bien entendu, de renforcer, d'accroître son marché, ses parts de marché. Hein, ça coule de source. Hein, et donc là, on a vraiment quelque chose qui, à la fois d'un point de vue économique, hein, l'État à nouveau se prive de recettes à long terme pour faire un gain à très court terme et afficher à très court terme une réduction de déficit, en sachant qu'il creusera les déficits se faisant à long terme. Donc c'est complètement stupide d'un point de vue économique, mais se surajoute à ça, là, un problème moral, hein, un problème de santé, hein, de santé, un problème de qui est le problème que vous avez évoqué, qui est le problème des addictions.
Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres privatisations qui vous paraissent acceptables?
Pour terminer sur la Française des Jeux, il faut savoir que la Française des Jeux finançait, apportait 80% des ressources au Conseil National du Sport. Hein, c'est pas rien, hein, c'est une charge qui lui a été imposée, et dans la perspective de la privatisation, le gouvernement a d'ores et déjà réduit ses taxes affectées, il les a réduites de 220 millions, elles étaient à 220 millions en 2017, elles sont passées à 93 millions en 2018. Donc il prépare déjà discrètement la privatisation en baissant ses taxes affectées, et vous n'êtes pas sans savoir que le sport en général est particulièrement maltraité déjà ces derniers temps, notamment dans le cadre de projet de loi de finances.
Bah alors, en tout cas, Bercy ne s'en cache pas, il pourrait y avoir d'autres privatisations à l'avenir. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que l'État est toujours au capital d'une entreprise comme Renault? Est-ce que les privatisations ne devraient pas commencer par là, Nicolas Lecossin?
Oui, bien sûr qu'ils devraient commencer par là. Hein.
Alors, qu'est-ce qui bloque?
Qu'est-ce qui bloque? C'est la volonté des politiques. Il faut que l'État se retire, bien sûr, de toutes ces entreprises. C'est absolument ridicule d'être présent. Air France, Renault et plein d'autres plus grandes ou petites entreprises. Donc c'est le moment... Ils auraient dû privatiser à longtemps. C'est ce qui empêchait d'ailleurs la réforme d'Air France pour qu'elle se transforme. C'est ce qui empêchait d'ailleurs la réforme d'autres sociétés qui sont restées publiques. La Poste reste toujours, a toujours un monopole, alors que dans d'autres pays, elle est privatisée, a eu ouverture à la concurrence, et on est à l'époque de l'Internet et du mail. Et la Poste reste complètement soumise aux aléas du courrier, et elle n'a pas été privatisée.
Mais est-ce qu'il ne faut pas différencier des entreprises de services publics d'un côté, des entreprises comme Renault de l'autre? Est-ce que pour vous, ça a toujours du sens que l'État soit au capital d'une entreprise comme Renault?
Que les choses soient claires pour moi, sur le point de vue global, je pense que nous vivons dans des économies mixtes, avec du privé, avec du public. D'ailleurs, dans le privé, il y a aussi l'économie sociale. Bon, voilà. Alors, bien entendu, il peut y avoir des dysfonctionnements de part et d'autre, mais il faut accepter ça. Et nous souffrons, quelque part, de ne pas accepter la réalité de nos économies mixtes qui existent dans tous les pays du monde, en fait. C'est ça, la
Mais si la vraie... on ne fait pas d'économie dans la Française des Jeux, est-ce qu'on ne peut pas aller du côté de Renault?
Pas du tout. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que sur ces grandes entreprises, il y a un enjeu majeur qui est que, à l'heure du capitalisme financiarisé que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, en fait, ce capital financiarisé favorisé par le libéralisme, eh bien en fait, il tue les entreprises. D'accord? Il tue les entreprises, c'est-à-dire que sa logique de rentabilité à court terme, hein, il faut savoir que 66% du capital des entreprises du CAC 40 est aujourd'hui flottant. Flottant, c'est-à-dire qu'il est dispersé sur le marché. Et donc, le modèle type, si vous avez des grandes entreprises cotées, c'est quoi? La majorité du capital est flottant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction de l'entreprise, elle passe une bonne partie de son temps à recevoir des représentants de fonds qui n'ont chacun d'eux que 0,05% du capital de l'entreprise. Donc, ils ne connaissent pas les entreprises, qui ont des participations dans des centaines, voire des milliers d'entreprises pour les plus au fond. Vous avez bien compris, vous ne pouvez pas connaître toutes ces entreprises. Et donc, en fait, la seule chose qu'ils exigent, c'est de la rentabilité financière à court terme. Et donc, bien entendu, ça tue l'investissement. Donc, la finance, aujourd'hui, joue contre l'entreprise. Et la participation publique dans Renault, dans Air France, ça permet justement de stabiliser. Hein, ça assure si l'État joue son rôle. Malheureusement, parfois, il ne le joue pas suffisamment. Mais ça permet de stabiliser le tissu industriel. Il faut renouer dans notre pays avec une politique industrielle que la Chine, je ne vais pas vous faire un dessin, et les États-Unis aussi. Hein, les États-Unis avec les dépenses du Pentagone, l'American Buy Act, ils ont des des outils de politique industrielle que nous avons largement abandonnés en Europe et en particulier en France. Et c'est l'une des explications, c'est l'un des éléments qui explique le vrai problème de désindustrialisation que nous avons dans notre pays.
Et l'enjeu, c'est aussi évidemment la question de la souveraineté nationale des entreprises, la tentative récente de prise de contrôle de l'électricien portugais EDP par China's Regorge est considérée à Bercy comme la situation à éviter par excellence, Nicolas Lecossin.
Ben, vous avez une ouverture à la concurrence de l'électricité partout dans le monde aujourd'hui. EDF est présente, comme la SNCF et la RATP, comme je disais tout à l'heure, un peu partout.
Mais l'État veut que l'ancrage français ou européen soit garanti. C'est l'une des lignes rouges qui est placée par Bercy. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne vois pas la ligne rouge, d'autant plus que EDF est présente par exemple au Royaume-Uni, au Brésil aussi, avec plus ou moins de bons résultats, et un peu partout dans le monde. Il n'y a pas vraiment de ligne rouge s'il ne s'agit pas du secret militaire ou de l'arme nucléaire. Donc ça, je pense que c'est un prétexte pour ne pas ouvrir à la concurrence plus que ce n'est le cas.
La doctrine actuelle, en tout cas, consiste à ne garder que les entreprises essentielles pour la défense nationale ou celles qui présentent un risque systémique. On voit qu'Emmanuel Macron va beaucoup plus loin que François Hollande sur le sujet. La feuille de route sur les entreprises à privatiser était beaucoup plus restrictive sous l'ancien gouvernement.
Oui, tout à fait. Là, on va plus loin dans le sens. On va plus loin dans le sens des privatisations. Je pense que c'est vraiment une politique à très très courte vie, très très courte vue, qui n'est pas fondée d'un point de vue économique, hein, pour les raisons que j'ai déjà évoquées initialement, qui va contre le sens de la justice sociale. Il faut savoir que pour les entreprises qui ont des missions de service public, là, donc je parle pas des entreprises qui sont Renault, etc., où là c'est des enjeux de politique industrielle, mais pour les entreprises qui ont des missions de service public, la Poste, EDF, bah, l'enjeu, bien entendu, c'est aussi un enjeu à travers la tarification d'égalité, hein, entre les citoyens, qui est extrêmement important. C'est sûr que bah, si vous ouvrez à la concurrence l'électricité, la poste, bah, vous avez bien compris que tous les petits bureaux de poste et puis la desserte, y compris électrique, hein, des petits villages perdus en haute montagne, bah, vous avez bien compris que les opérateurs privés ne vont pas se précipiter. Donc, alors, on peut dire qu'on va mettre des cahiers des charges, etc., mais là, on crée une bureaucratie. Hein, pour le coup, c'est ça un des paradoxes que je voulais évoquer, c'est que, comment dire, le marché dans une série de domaines ne conduit pas à une économie de coûts, mais ça conduit y compris à une inflation bureaucratique exorbitante qui bien entendu en rajoute sur les coûts, outre ceux qui sont liés au fait qu'on rémunère des actionnaires, etc.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la question des privatisations, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, la question des privatisations dépasse le clivage gauche-droite? Il faut rappeler que les deux champions de la privatisation, ça a été les gouvernements Villepin d'abord et le gouvernement Jospin ensuite.
Oui, tout à fait, le débat entre libéraux et keynésiens, il traverse la gauche et la droite sur tous les domaines. Hein, donc c'est pas d'abord un problème de clivage droite-gauche. Mais si vous voulez, je pense que quand même on change d'époque. C'est là que je trouve que Macron, le moderniste, est quand même très rétrograde. Hein. C'est-à-dire que depuis 2008, on a quand même changé d'époque. C'est-à-dire on sait pertinemment que bah voilà, le marché, ça a du bon. Bien sûr, il s'agit plus de revenir à des vieux débats sur le thème on va tout nationaliser, c'est terminé. Ça, vous tournez cette page, hein, d'accord. Bon, mais l'enjeu, bien entendu, c'est à côté du privé, on a besoin d'un secteur public extrêmement fort, hein, extrêmement puissant, qu'il faut réhabiliter, donc de façon à pouvoir bah, assurer une série de missions que le privé assure mal, de façon plus coûteuse, de façon plus injuste, et qu'il détruit finalement parce qu'il est dans une logique, et c'est pas lui faire un précédent, il est dans une logique de court terme. Hein, donc il faut réhabiliter la logique d'entreprise contre la finance, et pour réhabiliter l'entreprise, ça suppose que sur une série de domaines, eh bien, on garde le contrôle public, voire qu'on renationalise. Bah, on a des désastres industriels. Enfin, entre Usinor, Alstom, hein, on voit comment des logiques d'ouverture à la concurrence ont finalement conduisent progressivement à un démantèlement de filières industrielles dans notre pays.
Je rappelle que l'un des arguments invoqués par l'État pour aller dans le sens de ces privatisations, c'est la nécessité de renflouer les comptes publics à cause de la reprise partielle de la dette de la SNCF. À l'heure actuelle, la participation de l'État dans les entreprises cotées en bourse, c'est environ 77 milliards d'euros. Emmanuel Macron parle aujourd'hui de 10 milliards d'euros. Pour vous, Nicolas Lecossin, l'État peut et doit aller plus loin.
Oui, il peut et doit aller plus loin. Je me permets de rappeler ce que disait Madame Ségolène Royal au début des années 90, quand on a commencé l'ouverture à la concurrence des télécommunications. Elle disait, je la cite, « Les petits retraités n'auront plus de téléphone ni de télévision ». Elle s'opposait bien sûr à l'ouverture à la concurrence. On voit aujourd'hui que les petits retraités ont largement le téléphone portable et beaucoup de chaînes à la télé. Et le câble. Et Internet aussi. Donc je pense qu'il faut sortir de cette logique étatiste de protection. En fait, il ne s'agit pas de protection des entreprises publiques ou autres. Il s'agit d'une rente, vous avez raison, mais c'est une rente de ce qu'on appelle service public, des syndicats, des agents publics qui ont plein de privilèges qui sont payés d'ailleurs par l'argent des contribuables. Il faut ouvrir à la concurrence. On voit l'excellente situation de l'ouverture à la concurrence, des télécommunications, comme je le disais, du transport aérien. Et ce sont surtout les classes populaires qui en profitent. Les gens qui, avant, ne pouvaient pas prendre l'avion. Et on voit qu'une course Paris-New York, maintenant, vous avez des propositions de prix beaucoup moins chères que Paris-Marseille.
Bon, on ne vous mettra pas d'accord, de toute façon, aujourd'hui. Merci beaucoup à Christophe Rameau, économiste, maître de conférence à l'Université Paris 1 et membre des économistes atterrés, et Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, l'IREF. Christophe Rameau, je citerai l'un de vos livres, L'État Social, pour sortir du chaos néolibéral aux éditions Mille et Une Nuits. Un grand merci à tous les deux. Il est presque 14h45 sur France Culture. Prenons le chemin de la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, c'est un essai de Schumpeter que nous allons explorer, Théorie de l'évolution économique, paru en 1911. Joseph Alois Schumpeter, économiste autrichien, qui explique dans cet ouvrage l'évolution de l'économie entre période d'essor et période de crise. Et c'est Emmanuel Combes qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tiffaine.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 et vice-président de l'autorité de la concurrence. Alors d'abord, qui est Schumpeter? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots et nous dire peut-être quels sont ses influences intellectuelles?
Alors d'abord, ce qui caractérise Schumpeter, c'est un auteur autrichien. Il faut peut-être se replonger dans l'atmosphère de l'Autriche à la fin du 19e, début 20e siècle, hein, puisqu'il est né en 1883, donc il avait une vingtaine d'années au début du siècle. C'est l'Autriche, en tout cas la Vienne, que décrira Stefan Zweig dans le monde d'hier, donc un des centres intellectuels les plus importants en Europe. À la même époque, n'oublions pas qu'on a, et on va y revenir peut-être, Freud, qui à mon avis va influencer indirectement Schumpeter. Vous avez la naissance de la sociologie, on parle souvent de la sociologie française avec Durkheim, certes, il y a aussi la sociologie allemande avec Max Weber, je crois d'ailleurs qu'ils ont été collègues, et puis Zombart. Donc vous avez toute cette effervescence-là à Vienne, et il écrit Théorie de l'évolution économique en 1911, donc relativement jeune. Puis ensuite, vous le savez, il tente une courte carrière politique au sortir de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il est ministre des Finances. Puis il dirige même une banque qui fait faillite, et en 1927, il part aux États-Unis à l'université de Harvard, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort en 1950.
En quoi, Emmanuel Combes, peut-on dire que Schumpeter opère une rupture avec l'analyse néoclassique dans sa théorie de l'évolution économique?
Alors si vous me permettez, Tiffaine, j'irai même plus loin, il opère une triple rupture. C'est en ce sens-là qu'il est novateur. Il opère une rupture, comme vous l'avez dit fort justement, en son temps, avec l'économie qu'on appelle néoclassique, allez, disons libérale pour faire simple. Dans l'économie néoclassique, c'est une économie où il se passe rien, où au fond il est question uniquement de quantité, de prix d'équilibre. Il n'y a pas d'histoire, ou plus exactement le temps, c'est un temps mathématique. Et on ne parle jamais d'évolution, le terme n'est pas neutre, c'est pas théorie de la croissance économique, c'est théorie de l'évolution. Théorie de la croissance, les néoclassiques raisonnent en accumulation de quantité. Hein, la croissance, c'est quoi? Je produis 2 chaises, ensuite j'en produis 4 et j'en produis 6. Et donc par rapport à l'économie néoclassique, la grande rupture, mais on va y revenir, c'est le rôle de l'histoire, le rôle de l'irréversibilité, le rôle du changement qualitatif et pas seulement quantitatif. C'est aussi une rupture par rapport à 2 autres écoles qui, moi, m'ont laissé un peu insatisfait. Tout d'abord, le marxisme. On a une très belle explication historique, mais qui est trop déterministe, dans laquelle les individus n'existent pas. Ce sont les structures qui parlent. Et on va y revenir. Ce qui est passionnant chez Schumpeter, c'est qu'il est marxiste en ce sens qu'il a une vision de l'histoire. Il y a une fin de l'histoire, la victoire du socialisme. Mais en même temps, il fait une place à l'individualité. Donc ça, pour un jeune, je trouve que lire Marx et lire Schumpeter, c'est quand même... plus Adam Smith, c'est les 3 grands auteurs qui vous donnent une vision du monde.
Vous disiez que son titre, Théorie de l'évolution, n'est pas neutre. Et en effet, c'est une référence directe à Darwin. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que Schumpeter, selon lui, le capitalisme est comparable à un organisme vivant? Qu'est-ce que ça signifie, cette analogie?
Ce qui est fascinant avec la notion d'abord d'évolution, c'est que qui dit évolution, on ne va pas avoir besoin de causes extérieures pour comprendre la dynamique du capitalisme. Elle est interne au capitalisme lui-même. C'est le capitalisme lui-même qui va créer les propres conditions d'abord de son changement, et aussi de son déclin. Il annonce quand même la mort du capitalisme à terme. Donc dans l'idée d'évolution, vous avez raison, il y a l'idée que le système lui-même engendre ses propres dynamiques. Il y a une autre notion très importante dans la notion d'évolution, c'est cette notion, cette idée d'irréversibilité. La croissance, ça n'est pas qu'une affaire d'accumulation, produire plus. Il dit finalement, ça c'est ce qu'il appelle le circuit. On reproduit toujours la même chose. Le capitalisme, dans l'évolution, il y a l'idée d'un changement qualitatif, hein, avec le fait que une voiture, ça n'est pas un cheval qui va plus vite. C'est qualitativement différent et surtout, on ne revient pas en arrière.
L'évolution économique dont Schumpeter parle est matérialisée par des cycles et la source de ces cycles, c'est l'innovation. Alors, en quoi consistent ces différentes innovations dont parle Schumpeter ? Il en distingue cinq.
Alors on peut les rappeler peut-être rapidement et après voir à quel point c'est moderne. Première chose, bien sûr, inventer un nouveau bien. Vous mettez un iPhone sur le marché, c'est quelque chose qui est qualitativement différent, un nouveau service. Ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle méthode de production, je vais y revenir, une autre manière de produire. Ça peut être la découverte d'une nouvelle matière première qu'on n'utilisait pas, un nouveau débouché ou même une organisation du travail. Et ça, c'est très moderne et je pense que ça entre aussi en résonance par rapport à notre culture, sans vouloir faire de procès d'intention. C'est vrai qu'en France, quand on dit innovation, spontanément, on pense recherche-développement, et on a raison, on pense brevet, on pense ingénieur, on pense chercheur. Là, ce que nous dit Schumpeter, c'est que l'innovation, ça peut être des choses, je dirais, très simples. Permettez-moi quelques instants de revenir sur cette notion de nouvelle méthode de production. Il se trouve que je suis spécialiste d'un sujet, et souvent d'ailleurs on m'en fait grief en me disant « mais si tu étudies ce sujet, c'est que tu le défends ». Non, je ne le défends pas, il existe, ça s'appelle le low cost. Et souvent on me dit « mais le low cost, monsieur, ça n'existe pas, c'est un artifice, c'est une illusion, regardez Ryanair, ils exploitent les travailleurs, etc. » Ce qui n'est pas faux. Et moi, j'essaie d'expliquer que le low cost, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui est un second sujet, c'est bien une innovation. C'est très, très compliqué de faire un produit extrêmement simplifié. Mais pour revenir à votre question, ce qui est fondamental dans l'approche de Schumpeter, c'est que derrière le lancement de ces innovations, il y a des individus. Et j'emploie à dessein le terme d'individu parce que, au fond, ce qui m'a fasciné chez Schumpeter, c'est sa vision de l'entrepreneur.
Une figure essentielle dans l'œuvre de Schumpeter. Lui, c'est un créatif marginal.
Oui, c'est ça qui est original, c'est que, je n'ai pas fait l'expérience, mais je suis sûr que si dans la rue, on interroge une personne et on lui demande, mais au fond, qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est un patron. Et un patron, d'abord, on n'a pas forcément une bonne image. Et quand on en a une, on va plutôt voir l'image de l'ordre établi, de l'insider, de celui qui n'a plus rien à prouver, qui mise sur la hiérarchie, qui est dans le système. Et quand vous lisez Schumpeter, l'entrepreneur, c'est un marginal. On ne naît pas entrepreneur, on ne reste pas entrepreneur, on peut éventuellement l'être au cours de sa vie. C'est un moment, c'est un état transitoire, mais en aucun cas, on peut définir un entrepreneur comme un statut. Ensuite, il nous dit l'entrepreneur, eh bien, il va se heurter à l'ordre établi. En fait, l'entrepreneur, c'est le marginal de l'économie. Mais au fond, qu'est-ce qui le motive ? C'est pas l'appât du gain qui le motive. Il ne vit pas pour jouir de ce qu'il a acquis. Si ce désir surgit, c'est pour lui la paralysie, et non un temps d'arrêt sur sa ligne antérieure.
On voit que l'originalité de Schumpeter, en effet, c'est d'être un économiste qui s'est intéressé à beaucoup d'autres domaines. Et avec cette figure de l'entrepreneur, il se rapproche par exemple de la sociologie. Oui. Vous citiez tout à l'heure Max Weber, qui a effectivement été proche de lui, qui a eu beaucoup d'influence sur lui. Et c'est peut-être là qu'il faut faire intervenir un nouveau concept qui est essentiel dans la pensée de Schumpeter. C'est celui de destruction créatrice. C'est l'idée qu'on ne peut faire du neuf qu'en détruisant du vieux.
Oui. Alors ça, c'est fondamental dans la théorie de l'évolution économique. Il commence par un état du monde qu'il appelle le circuit. Alors qu'est-ce que c'est qu'en deux mots le circuit ? C'est assez intéressant, c'est un monde dans lequel il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas, on produit toujours la même chose, on consomme toujours la même chose. Et finalement, il nous dit que ça ressemble beaucoup à l'économie néoclassique. L'ajustement se fait par les prix, l'offre égale la demande, etc.
Et l'équilibre est l'idéal.
Et il vous dit que c'est un marché où il n'y a pas de rente, c'est un marché de concurrence, au sens néoclassique du terme, un très grand nombre de producteurs, le profit est réduit à néant, et on arrive sur dans cet état où il ne se passe rien, arrive l'entrepreneur qui va détruire. Par définition, lorsque vous lancez une innovation, elle va nécessairement un jour ou l'autre, peut-être pas au début, un jour ou l'autre empiéter sur ce qui existait déjà. Regardez l'actualité du sujet. Airbnb, lorsque cette application a été lancée il y a 10 ans, 15 ans, je pense qu'elle n'était pas concurrente des hôtels. Ça n'était pas la même clientèle. C'était plutôt une clientèle jeune, qui avait une forte contrainte de revenus, et qui finalement ne connaissait pas vraiment l'expérience de l'hôtel. Regardez ce qui s'est passé au cours du temps. Airbnb est montée en gamme et pour le coup, elle est venue attaquer de manière frontale les hôtels avec un business model complètement différent. Donc il y a toujours cette idée que la création, quand vous lancez un nouveau business model, nécessairement, vous allez détruire ce qui existait avant. Dans un premier temps, l'innovation va incuber, l'entrepreneur va se heurter à des résistances, puis ensuite l'innovation va prendre et ça va être une phase de croissance. Ça va être une phase d'expansion. Ça correspond quand même assez bien aux années 2000 jusqu'à la crise de 2008, la diffusion d'Internet, les nouvelles technologies. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Ces innovations vont être peu à peu imitées. Et donc le profit va diminuer, la concurrence va revenir. Celui qui était en monopole, on va y revenir sans doute, ne va pas rester si longtemps que cela en monopole. Il va être imité et il va succéder à une phase d'innovation, une phase de diffusion technologique qui va être plutôt une phase de récession ou en tout cas de croissance moins. Donc au fond, pour Schumpeter, la crise est la conséquence nécessaire de la croissance. Et ce que nous dit Schumpeter, c'est que l'entrepreneur n'existe pas s'il n'a pas à côté de lui un second marginal. Et là, ça nous fait presque sourire parce que ce n'est pas l'image qu'on en a, c'est le banquier.
Alors en quoi le banquier est-il un marginal?
Eh bien, Schumpeter nous dit, par définition, revenons au circuit. Dans le circuit, on ne prête pas. Puisque de toute façon, le circuit, ça ronronne, c'est toujours les mêmes biens qui sont produits. On a besoin de quelqu'un qui dise à l'entrepreneur, écoute, tu as des idées, tu n'as pas d'argent, je vais prendre le risque de te prêter. Qu'est-ce qui va lancer l'innovateur? C'est le fait qu'on lui fait du crédit.
Emmanuel Combe, vous diriez que c'est le retour des crises économiques à partir des années 70 qui redonne à Schumpeter une nouvelle audience. Et à nouveau, au moment de l'effondrement de la bulle Internet dans les années 2000, il est revenu à la mode, Schumpeter?
Je trouve que Schumpeter est revenu à la mode, notamment sous la plume de Philippe Agion et puis d'autres auteurs, parce qu'il a montré que quand une économie arrive à la frontière technologique, en France, on a rattrapé les États-Unis depuis les années 70. Il n'y a pas 36 solutions pour relancer la croissance. C'est d'avoir des innovations qu'on appelle radicales. Et on voit bien l'actualité du sujet, notamment en Europe, pas qu'en France. La difficulté que l'on a en Europe, par rapport aux États-Unis, à faire émerger, notamment sur le numérique, des nouveaux géants. On a une vision assez conservatrice de l'économie. Et Schumpeter nous dit, si vous voulez de la croissance, il faut accepter les disrupteurs. Et je trouve qu'il y a des éléments tellement modernes chez Schumpeter sur sa vision des élites. Avec l'idée qu'au fond, l'entrepreneur va avoir de plus en plus de mal à s'exprimer. Il va y avoir une forme de pensée commune. On a tous une préférence pour la routine. Au fond, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le comportement routinier qui est rassurant. Et ce qu'il va montrer, notamment dans capitalisme, socialisme et démocratie, c'est que dans des sociétés modernes, paradoxalement capitalistes, être disruptif, être marginal, va devenir de plus en plus difficile. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas complètement faux quand on regarde notamment certains symptômes en Europe ou même en France, où on a tendance à confondre l'entrepreneur et le chef d'entreprise, ce qui n'est pas la même chose.
Pour conclure, Emmanuel Combe, pourquoi faut-il, selon vous, lire la théorie de l'évolution économique plus de 100 ans donc après sa parution?
Parce que d'abord, il propose une vision de l'économie. Je trouve que c'est assez rare. On trouve ça chez Marx et chez Adam Smith, au-delà de la mécanique, une vision de l'économie. Et en plus, je suis persuadé que la fin de l'histoire, qui est quand même la victoire du socialisme, il le regrette. Qu'est-ce que d'ailleurs le socialisme? Quelle préscience! Pour Schumpeter, le socialisme, ça n'est pas la violence physique, c'est un monde, c'est l'État stationnaire. C'est le circuit où il ne se passe rien, où tout le monde consomme la même chose. Et il vous dit, j'en suis désolé, mais on va aller vers cet état-là. Et je trouve que c'est pas complètement faux quand on regarde quand même la tentation qu'on a tous, c'est une opinion personnelle, à quand même avoir du mal avec la nouveauté radicale, avec cette idée qu'au fond, il faut tous penser la même chose. Et vous le savez, Schumpeter a des mots assez durs sur ma profession et sur la profession des intellectuels en général, en disant, mais au fond, les intellectuels sont le fruit du capitalisme et en même temps, ce sont eux qui vont causer sa perte en expliquant que ces entrepreneurs n'ont plus lieu d'être. Donc moi, je conseille vivement à nos auditeurs de lire soit Théorie de l'évolution économique, qui est un ouvrage aride, il faut le dire, parce qu'on va vraiment sur du concept. Et si on veut vraiment se faire plaisir, il faut aller sur capitalisme, socialisme, démocratie. Et je conseille en particulier le chapitre qui s'appelle « Les murs s'effritent », où Schumpeter, en 20 pages, 30 pages, vous dit « Écoutez, je suis désolé, mais Marx a raison, il n'y aura pas de révolution, on va tous aller vers le socialisme de plein gré ». Et je trouve que la description qu'il fait du socialisme est assez intéressante.
Merci beaucoup Emmanuel Combe. Je rappelle votre ouvrage précis d'économie dont la dernière édition est parue au PUF cette année. Un grand merci. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'Entendez-vous l'écho consacrée à l'économie des déchets. Lundi, on parlera de l'invention des déchets au 19e siècle. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.